Le terrorisme au cœur des débats au sommet de l'ASEAN qui se déroule à Sydney. Et après avoir été reconduite pour diriger l'Allemagne en milieu de semaine, Angela Merkel s'est rendue à l'Élysée pour renforcer le couple franco-allemand. Et en Afrique du Sud, l'ancien président Jacob Zuma rattrapé par les affaires. Ce samedi, le premier ministre australien Malcolm Turnbull reçoit à Sydney 10 leaders de l'alliance ASEAN. En marge de ce sommet, le ministre australien de l'Intérieur, Peter Dutton, souligne que la sécurité sera au cœur des débats, ce y compris l'usage des messages électroniques cryptés pour planifier des actes terroristes dans la région. Peter Dutton indique que le partage d'informations pour lutter contre le terrorisme est un des sujets qui seront abordés aujourd'hui.
While our nations are focused on countering the ongoing threat of terrorism domestically, it would be a mistake to approach the problem from a purely national perspective. Terrorism and violent extremism transcend national borders. Countering the threat requires a united and cohesive regional effort involving coordination between our respective national security and law enforcement agencies.
Par ailleurs, en marge de ce sommet, le Premier ministre Malcolm Turnbull a exprimé à Hun Sen, son homologue cambodgien, ses inquiétudes concernant la situation des droits de l'homme au Cambodge. Le parlementaire libéral Michael Sucker estime que Malcolm Turnbull est bien placé pour défendre les droits de l'homme dans la région.
The art of diplomacy is not a science, but I think you can be assured that the Prime Minister will be very frank. Particularly when discussing these sorts of issues with friends in the region.
Il faut signaler que la rencontre entre Malcolm Turnbull et Hun Sen s'est déroulée sur fond de manifestations de nombreux expatriés cambodgiens mécontents de la situation des droits de l'homme dans leur pays. Et en Australie méridionale, les bureaux de vote sont ouverts depuis ce matin et selon les derniers sondages, les libéraux sont en tête avec 34% d'intention de vote, suivi par les travaillistes avec 31% d'intention de vote. Le nouveau venu sur la scène locale, Nick Xenophon et son parti SA Best sont en perte de vitesse. Le premier sortant, le travailliste Joe Wetherill, se dit confiant de pouvoir remporter une deuxième victoire d'affilée pour son parti.
I think we've put a really powerful and positive image out there. We're the only ones talking about a vision for South Australia, and basically our opponents are talking down South Australia. So I think this is a massive contrast, and looking very much forward to seeing how it all plays out.
Mais le chef de l'opposition, Stephen Marshall, espère l'emporter cette fois-ci après avoir tout juste frôlé la victoire en 2014. Avant de voter tôt ce matin, Stephen Marshall exprimait son optimisme.
You know, I've been in this role now for 5 years. I've got a strong team. It's a very united team. Thank you very much. Thank you. It's a strong team. It's a really united team. I've really enjoyed, look, there have been some tough times since the last election, of course, after losing that election, but we've worked really hard as a team. Very proud of the efforts that we've put in. I'm very proud of the campaign that we've run, and I'm looking forward to a good result tonight.
Et reconduite à la tête du gouvernement allemand en milieu de semaine, Angela Merkel était en visite hier en France. Le chef d'État français l'a félicité pour la formation de son nouveau gouvernement de coalition, tout en rappelant l'importance de la coopération franco-allemande. Et lors d'une conférence de presse conjointe, Emmanuel Macron a proposé de mettre en place une feuille de route claire et profonde d'ici le mois de juin pour refonder l'Union européenne.
Pendant de longues années, l'Europe a attendu que le couple franco-allemand avance et propose, avec la force qu'il a historiquement su trouver à chacune des grandes étapes de l'Europe. Nous y sommes prêts. Et c'est donc cette étape qui est désormais devant vous. Il y a 6 mois, j'ai fait des propositions. Nous avons beaucoup discuté avant celle-ci ensemble. Nous avons beaucoup discuté depuis. Il est indispensable aujourd'hui que nous puissions ensemble construire cette ambition nouvelle. C'est cela notre tâche. D'ici au mois de juin, sur l'union économique et monétaire, et en particulier la zone euro, notre capacité à réarticuler responsabilité et solidarité, sur la politique migratoire, la politique de défense, la politique commerciale, mais aussi nos politiques de recherche, notre culture, nous proposerons une feuille de route claire, ambitieuse pour cette refondation d'ici au mois de juin, et nous y mettrons l'énergie requise.
Et les relations entre Moscou et Londres continuent de se détériorer après l'empoisonnement d'un ex-espion russe, Sergei Skripal, et sa fille. Hier, le ministre britannique des Affaires étrangères a provoqué la colère de Moscou en évoquant que Vladimir Poutine aurait personnellement commandité la tentative d'assassinat. Depuis Moscou, Daniel Valo pour RFI, donc de RFI, revient sur la colère de Moscou concernant cette affaire, cette tentative d'assassinat d'un agent double en Grande-Bretagne.
Visiblement, les déclarations de Boris Johnson n'ont pas du tout été appréciées du côté de Moscou. Toute mention ou référence à notre président est choquante et impardonnable en termes d'étiquette diplomatique, a ainsi déclaré Dmitri Peskov, le porte-parole du Kremlin. Moscou ne tolère pas que le nom de Vladimir Poutine soit directement lié à cette affaire d'empoisonnement. La Russie continue d'ailleurs de nier en bloc toute implication directe dans cette affaire et menace Londres de mesures de représailles suite à la décision de Theresa May d'expulser une vingtaine de diplomates russes. La réponse de Moscou n'a pas été encore dévoilée, sur le plan diplomatique en tout cas. En revanche, une enquête judiciaire a été ouverte ce vendredi pour tentative d'assassinat sur la fille de Sergei Skripal, mais aussi, et c'est beaucoup plus inattendu, sur Nikolai Glushkov, cet exilé russe retrouvé mort ce lundi à Londres dans des circonstances qui restent encore mystérieuses. En ce qui concerne les mesures de représailles prévues par Moscou, c'est Vladimir Poutine in fine qui prendra les décisions, c'est ce qu'a expliqué tout à l'heure Dmitri Peskov. Vladimir Poutine qui ne s'est toujours pas exprimé sur cette affaire depuis qu'elle a éclaté, hormis une très brève déclaration ce lundi à l'attention des journalistes de la BBC.
C'était Daniel Valo pour RFI. Et en Afrique du Sud, l'ex-chef de l'État, Jacob Zuma, sera poursuivi pour corruption. Une annonce qui a été faite hier par le procureur général. La décision du parquet intervient tout juste un mois après la démission du président Jacob Zuma, contraint de céder sa place sous la pression de son parti, l'ANC. Explication depuis Johannesburg, Alexandra Branjon pour RFI.
Jacob Zuma va devoir répondre de 16 chefs d'inculpation pour corruption. L'affaire remonte à la fin des années 90. Zuma est soupçonné d'avoir touché des pots de vin dans le cadre d'un contrat d'armement signé par l'Afrique du Sud avec plusieurs entreprises étrangères, dont la française Thales. Un contrat de plus de 4 milliards d'euros. À l'époque, il était le chef du parti au pouvoir, l'ANC, et avait été inculpé pour corruption, fraude fiscale et racket. Mais quelques semaines seulement avant son élection à la tête du pays, les 783 chefs d'inculpation sont abandonnés pour vice de procédure. Depuis, l'opposition se bat pour obtenir qu'elle soit rétablie et a finalement eu gain de cause. Cet après-midi, le parquet a confirmé l'ex-chef de l'État va devoir répondre de ses accusations. Le procureur Sean Abraham s'est dit soucieux que tout le monde soit égal devant la loi. Le principal parti d'opposition, l'Alliance démocratique, qui a mené le combat, s'est réjoui. Mais l'affaire est loin d'être bouclée. Jacob Zuma peut encore faire appel de cette dernière décision.
Et c'était Alexandra Branjon pour RFI. On signale également que le groupe industriel français Thales est aussi impliqué dans ce feuilleton judiciaire sud-africain. Et en bref, aux États-Unis, l'État d'Oklahoma va désormais exécuter les condamnés à mort par inhalation forcée d'azote, selon le procureur général de l'État. En effet, depuis plusieurs années, l'Oklahoma a des difficultés pour s'approvisionner en substances utilisées dans des cocktails pour les injections létales, car les firmes pharmaceutiques, souvent européennes, refusent de fournir ces produits pour des exécutions. Utiliser de l'azote comme méthode d'exécution serait donc une première, comme le fait remarquer Raphaël Chenot, directeur général d'Ensemble contre la peine de mort. Et au Brésil, l'heure est à la consternation et au rassemblement après l'assassinat d'une élue noire de 38 ans à Rio de Janeiro. Des rassemblements ont eu lieu dans plusieurs grandes villes depuis jeudi, en soirée à Rio, à Brasilia, à Sao Paulo, la plus grande ville du pays aussi, où plusieurs milliers de personnes se sont retrouvées devant le musée d'art. Et un coup d'œil météo à travers les principales villes australiennes, Perth 24 degrés, Adélaïde 33 degrés, Melbourne 33 degrés, Hobart, 28 degrés, Canberra, 33 degrés, Wollongong, 29 degrés, Sydney, 31 degrés, Newcastle, 31 degrés, Brisbane, 31 degrés, Cairns, 30 et Darwin, 28 degrés. Et à la bourse, un dollar australien vous achète aujourd'hui 77 centimes de dollars US et 63 centimes d'euros. Et un rappel des titres de l'actualité, le terrorisme au cœur des débats du sommet de l'ASEAN qui se déroule à Sydney aujourd'hui. Après être reconduite pour diriger l'Allemagne, Angela Merkel en visite à l'Élysée pour renforcer le couple franco-allemand. En Afrique du Sud, l'ancien président Jacob Zuma rattrapé par les affaires.